Radio Bark, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Bark, 14e de notre 16e saison, invité Lionel Giraud. Bonjour, monsieur Giraud. Alors, vous êtes chef étoilé à la table de Lionel Giraud dans la maison de Saint-Cressant. J'essaie de respecter un petit peu précisément les choses. Vous allez entrer dans le détail et nous expliquer un peu de quoi il retourne. Vous avez un restaurant depuis un certain temps qui s'appelait la table de Saint-Cressant, ouais, je crois. Et vous avez une étoile, vous en avez une deuxième, et puis vous vous êtes élargi. On va entrer dans les détails de tout ça. Alors, succinctement, donc aujourd'hui, ce grand ensemble, anciennement le Palais du Vin et votre restaurant, ça a pris une tournure un peu différente.
Oui, exactement.
Expliquez-nous ça.
Donc, c'est cette grande maison qui était coupée en deux avec caviste et donc nous restaurant est devenue en fait un lieu de vie assez atypique parce que je propose un peu trois lieux bien particuliers. Donc le premier qui était donc la table Saint-Cressant est devenu la table Lionel Giraud avec un changement d'orientation au niveau entrée bien évidemment et restructuration des locaux. Ensuite, nous avons récupéré la cave à vin à côté, donc qui est restée la cave à vin, et nous avons créé une petite table, donc qui est la cave à manger, où vous venez un peu dans un esprit bistrot, de partage, de convivialité, avec toutes ces belles références de vin autour de vous. Vous pouvez les choisir, les chiner, les poser sur table et passer un moment convivial avec vos amis.
Voilà. Oui, c'est-à-dire que vous êtes un chef qui a aussi ce que j'appellerais une fibre entrepreneuriale, finalement.
Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Il était nécessaire que donc la table Saint-Cressant se repositionne pour les 20 prochaines années, tout simplement parce que elle a été conçue en 1995 et je l'ai rachetée et repris en 2003. Et c'est vrai que elle était un petit peu dépassée par ce qui se fait aujourd'hui, ce qu'on peut retrouver et ce qu'on peut aussi attendre d'un lieu dans lequel s'exprime un chef, un chef de étoilé. Pour coller un petit peu avec notre volonté et aussi pour être un peu plus stable économiquement pour les 20 prochaines années, il fallait refaire un grand changement. J'ai passé pas mal de temps à essayer de quitter ces lieux, c'est-à-dire aménager quelque part mon établissement et puis de recherche en recherche, de déboire en déboire et de non-aboutissement de projets qu'elles soient bien sûr liées à une volonté d'une personne ou tout simplement sur les on va dire sur les axes économiques, on s'est recentré avec mon épouse et on a dit pourquoi pas adopter un peu la méthode japonaise, c'est-à-dire se recentrer vers l'intérieur, c'est-à-dire d'arrêter d'être parasité par tout le négatif extérieur et donc d'amener nos clients vers une expérience interne différente et plus propice à ce que nous proposions en termes de service et de cuisine.
Voilà, alors ça c'est la maison de Saint-Cressant aujourd'hui. Et alors le fait, Lionel Giraud, que vous ayez tout à côté de chez vous les grands buffets, est-ce que ça constitue peut-être un pôle, une attractivité générale?
Je suis très heureux que Louis et les grands buffets juste en face de nous parce que déjà le fait d'avoir un pôle comme ça d'attraction est intéressant et puis tout simplement parce que en faisant rayonner la ville à travers sa belle communication ou l'envie que les Français et d'autres populations ont envie de découvrir au grand buffet, forcément ça fait rayonner le secteur et comme il est souvent complet, ça tombe bien parce que du coup on récupère aussi du monde et nous comme nous sommes complets aussi à la table deux étoiles parce que ça a été la distinction de l'année et donc ça a créé un certain intérêt, un certain engouement, plus les travaux, plus le réaménagement a créé beaucoup d'attractivité. Forcément, ça a permis aussi à ce que la cave à vin et à manger se remplissent et enfin, là, je suis en train de croiser les doigts pourvu que ça dure, parce que ben, forcément, on a un peu été à l'arrêt là depuis.
Oui, ben là, on va y revenir dessus. Voilà. Ça, c'est un, hélas, un autre problème. Un dernier petit point, Saint-Crescent, c'est-à-dire aujourd'hui le restaurant, la table de Lionel Giraud. C'est un lieu quand même historique, qui est assez ancien, oui, qui a une histoire.
Donc c'est une abbaye. C'était l'abbé Saint-Crescent. Enfin, c'était un oratoire exactement. Et c'était l'abbé Saint-Crescent qui offrait le gîte et le couvert aux pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle.
Ah, c'était ensuite une étape.
Oui. Ensuite, il a utilisé ce lieu parce que bon, c'était la campagne pleine. Il y avait beaucoup de vignes, donc pour faire du vin, il faisait aussi du fromage. Et ensuite, bon, ben, ça a été un peu plus compliqué par la suite, puisqu'après, c'est devenu une léprerie quand Narbonne avait fermé ses remparts, et donc c'était le seul lieu extérieur de la ville qu'il pouvait accueillir ses malades. Et donc voilà. Donc ça a toujours été un lieu de forte histoire. Et avec donc en fait, nous avons fait que perpétuer cette tradition bimillénaire qu'on appelle, et on essaie de le faire avec.
Voilà, et il reste dans l'architecture des signes, enfin des.
Complètement.
De cette époque-là. Alors revenons au travail lui-même, un petit peu d'histoire. Comment est-ce qu'on devient d'abord chef, puis chef étoilé? Alors vous, si je puis dire, c'est comme dans la bande dessinée d'Astérix. Là, vous êtes tombé dans la marmite de potions magiques assez jeune, puisque votre père, Claude Giraud, était déjà lui-même chef et chef étoilé. Mais un père ne donne pas forcément un fils. À quel moment vous vous dites « je vais faire pareil » ?
Alors, moi, ça a été assez simple, en fait. En tant qu'enfant, je regardais ça avec des yeux magiques parce que il y avait toujours tout le temps du monde à la maison, ce qu'on appelle à la maison, parce que quand on est restaurateur, on reçoit chez soi. C'est un outil de travail, mais c'est aussi un lieu où on passe énormément de temps dans la journée. C'était une époque où, bien évidemment, on comptait pas ses heures, où les 35 heures n'existaient pas, et bien évidemment, il fallait pour exister, il fallait en faire toujours plus et plus que les autres. Et donc, j'ai toujours vu mes parents travailler énormément pour pouvoir arriver à faire fonctionner cet établissement qui s'appelait le Réverbère à l'époque, qui n'était pas là où nous sommes aujourd'hui.
Place des Jacobins, non ?
Exactement. Et donc, moi, je voyais ça avec mes yeux d'enfant et j'ai pris la décision d'arriver à ce métier, tout simplement parce que j'avais un manque d'affection. Tout simplement parce que mes parents travaillaient tellement de temps que j'étais toujours ballotté entre tati, mamie, papy, et je passais très peu de temps en fait avec eux. Et je me suis dit tiens, si je fais le même métier qu'eux, au moins je pourrais passer du temps avec eux. Mais chose qui ne s'est pas du tout passée par la suite, mais c'est comme ça que j'ai mis le pied un peu dans cette spirale. Et ensuite je voyais arriver tous ces grands chefs comme Alain Chapelle, Michel Guérard, il y avait aussi Joël Robuchon, Sandre Reims, enfin tous ces grands noms, et en fait, je voyais un peu ces gens comme mes héros. C'était une époque où c'était les années fastes, c'était les Golden Boys, les années 80, c'était magnifique, tout le monde était beau et tout fonctionnait bien. Donc, quand on regardait ça, on avait un objectif de vie, c'était de dire tiens, j'aimerais bien ressembler à ça.
Ça, c'est devenu une sorte de mythe presque.
Oui, complètement. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Après, c'est assez aussi. Il y a des paradoxes parce que j'ai été en pension à Sorèze, à l'école royale militaire de Sorèze à l'âge de 11 ans, et donc ça m'a coupé aussi le cordon ombilical forcément, et on est confronté à nos obligations, même si on est enfant, même si on est jeune, à 11 ans c'est, on est post-adolescent quoi, et donc il fallait avoir un objectif de vie, et il était nécessaire parce qu'on vous l'inculquait tous les jours, déjà vous faisiez le défilé militaire, on marchait tous au pas, et puis c'était Napoléon qui avait créé donc on avait cette espèce d'éducation permanente très napoléonienne qui faisait que on devait absolument réussir notre vie à travers notre travail et à travers toutes ces valeurs qu'on nous inculquait quotidiennement en gros tu n'as rien sans rien, donc il faut travailler.
Oui, la discipline, donc ça vous a été inculqué très jeune à Sorèze notamment.
Exactement.
Et alors Lionel Giraud, parfois on a l'impression, et que certains, enfin je l'ai déjà entendu dire plusieurs fois, vous allez me dire si je me trompe, le monde de la cuisine est un monde qui est assez dur et qui a une discipline, oui chef, de gens qui rappelle un petit peu la discipline doctrine militaire. Est-ce que c'est vrai ?
C'est tout à fait ça. Il faut dire que la constitution, en tout cas des brigades, ont été mises en place tout simplement sous le modèle militaire. Parce que c'était l'après-guerre, parce que les cuisiniers ou les restaurants tenus à l'époque par les maîtres d'hôtel étaient utilisés en tout cas par les on peut pas dire les notables ou d'autres personnes un peu plus influentes, et donc il fallait une rigueur parce qu'on ne devait pas décevoir l'hôte qui était de renom ou qui était de bel augure parce qu'il payait correctement à l'époque, c'était comme ça, et donc il fallait absolument avoir une rigueur derrière pour que le produit final pour le consommateur soit exceptionnel.
Et ça s'est perpétué.
Alors ça se perd un peu aujourd'hui, on est rentré dans une autre dynamique, mais pour parler de l'époque où moi j'ai démarré, c'était très difficile, quoi. Les arrières-cuisines étaient un peu le bagne, comme j'appelais ça. On nous respectait pas trop en tant qu'être, hein, mais il fallait juste produire un résultat exceptionnel. Et si ce résultat n'était pas au rendez-vous, on se faisait un peu taper sur les doigts, et pas qu'au sens moral, mais aussi au sens physique.
Voilà. Et quelques exemples de votre parcours.
J'ai démarré au Crillon en 1995 avec l'équipe. C'était Christian Constant qui était directeur des cuisines à cette époque-là, avec Éric Fréchon qui était chef exécutif, Yves Candebord, Laurent Janin. Donc tous ces grands noms qui aujourd'hui ont 3 étoiles dans les palaces, voilà. Et c'était une école de rigueur. Donc j'attaquais à 6h du matin et je finissais à minuit. Donc si vous faites le calcul, ça fait quand même des grosses journées. Et je rajoutais à ça 1h30 de transport en commun pour pouvoir rentrer chez moi, parce que je n'avais pas les moyens à l'époque de pouvoir me loger dans Paris. Donc je me logeais dans le 92. Et donc j'avais quelques heures de métro et de RER par la suite. Et donc ça nous a inculqué une discipline, une rigueur, mais qui n'était pas très loin finalement de ma formation de l'école de Sorèze à l'âge de 11 ans.
Voilà, donc tout ça vous avez servi et préparé en quelque sorte.
Ça m'a préparé pour la seule et bonne raison que c'était on avait en exemple souvent sur 10 cuisiniers qui rentraient au Crillon, seul un ou deux restaient et je faisais partie de ces deux.
Oui, voilà, c'est ce qui était un critère.
C'était un critère.
Lionel Giraud, on marque une première pause, on se retrouve pour une deuxième partie dans laquelle on va évoquer alors la cuisine, puisque c'est quand même ce qui vous amène ici, et on va entrer véritablement dans vos cuisines.